Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.
Mesdames, messieurs, amis sportives, sportifs, bienvenue pour le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Jour et horaire de diffusion exceptionnellement inhabituel cette semaine, mais rien ne change sur le plateau. À mes côtés, le fidèle de ce rendez-vous hebdomadaire, Mathieu Billot de Foot Normand. Salut Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous.
Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand.
Toujours un vrai plaisir de se retrouver. Première partie consacrée au Havre aujourd'hui. On parlera évidemment, comme lors de chaque débrief, du Stade Malherbe, du foot en région. Mais la première partie, donc, elle est consacrée dans ce débrief au Havre Athletic Club. Première partie, je vous le disais, du débrief focus sur le HAC, un club havrais qui a vécu un week-end compliqué avec une élimination au 8e tour de la Coupe de France par Chauvigny, pensionnaire de National 3. On va en parler avec notre invité qui est Romain, supporter du HAC et membre de la communauté Actu. Bonjour Romain.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors effectivement, comme son voisin Canet au tour précédent, eh bien c'est à l'issue de la séance de tir au but que les hommes de Paul Le Guen ont mordu la poussière. Le week-end dernier, le score affiché 0-0 à l'issue du temps réglementaire. On rappelle encore une fois qu'il n'y a plus de prolongation en Coupe de France, ce qui favorise les surprises, et c'est donc ce qui s'est produit. Khalid Boutaïb puis Nolan Mbemba ont marqué leur tentative, tandis que les amateurs du Poitou, eux, ont signé un sans faute. Ils ont manqué, pardon, leur tentative Boutaïb et Mbemba, et eh bien les joueurs de Chauvigny, eux, ont fait un sans faute, comme souvent d'ailleurs, hein, sur cette édition pour les joueurs amateurs qui sont relativement adroits dans cette séance de tir au but. Romain, ça vous inspire quoi, cette élimination prématurée, hein, il faut bien le dire, du Havre dans cette épreuve qu'est la Coupe de France?
Ah, je dirais à chaud, bien évidemment, de la déception, parce que en plus, on l'a vu, hein, c'était une équipe type, quasiment type Ligue 2 qui était alignée, ou niveau Ligue 2 déjà, contrairement au tour précédent où on a pas mal de jeunes qui ont intégré l'équipe. Donc à chaud, une grosse déception parce qu'on se devait de gagner, hein, face à cette Nationale 3. Puis après, bah, quand on analyse un peu par la suite, et je pense que c'est ce qu'on va un peu évoquer, c'est que bah, du coup, ça amplifie les incertitudes qu'on a pu avoir ces derniers temps.
Alors il y a aussi un élément qui a été entre autres évoqué par Paul Le Guen, c'est l'état du terrain qui n'était pas très bon visiblement. Paul Le Guen qui a dit voilà, lorsque vous jouez sur un terrain comme ça, je vois pas trop où est le charme. Bon Mathieu, on va pas se mentir, quand on est une Ligue 2, qu'on joue contre un club amateur, peu importe l'état de la pelouse quoi, on doit faire la différence, non?
Oui, quand même, parce que c'est quand même bon, même si c'est une équipe de N3, ce n'est entre guillemets qu'une équipe de N3, donc la différence doit se faire sentir durant les 90 minutes. Bon maintenant voilà, quand on se fait éliminer, on essaye toujours se raccrocher un petit peu à quelques éléments qui ont tourné en votre défaveur. Hein, le gardien de Chauvigny a visiblement aussi fait un gros match, à en croire le compte-rendu de notre confrère de Paris-Normandie, Benoît Donquel. Donc voilà, bon, c'est un peu le charme de la coupe pour le petit. Maintenant, pour rebondir sur ce que dit Romain, effectivement, c'est que ça intervient à la suite de quelques matchs en championnat qui sont moins aboutis, où il y a moins de résultats. Et là, forcément, peut commencer à se poser quelques questions.
Ouais. Mathieu, simplement un mot, j'y faisais référence tout à l'heure sur la séance de tir au but, parce que c'est vrai que c'est assez exceptionnel cette année. Alors, on parle souvent de la pression, hein, que représente quand même ce qui s'apparente parfois à une loterie. Or, on peut aussi estimer que c'est plus un geste technique réussi ou non qu'une loterie. On pourrait penser que finalement, les joueurs de Ligue 2, plus expérimentés, maîtrisent un petit peu mieux l'exercice que les joueurs amateurs, avec souvent la pression positive, certes, mais du public, de l'atmosphère qui règne autour, cède un petit peu face à cette pression. Et finalement, c'est souvent l'inverse. C'est souvent les joueurs pros qui se craquent dans cet ultimatum.
Ouais, alors on pourrait dire que c'est comme un penalty dans un match de foot classique. Peut-être que les amateurs ont tout à gagner et les pros ont tout à perdre. Et du coup, peut-être que ça change le rapport psychologique. Voilà, on le mentionnait, il n'y a plus de prolongation en Coupe de France cette année. Ça change quand même la façon d'aborder les matchs, pour les amateurs comme pour les pros. Les amateurs, entre guillemets, ils peuvent se dire, on tient 90 minutes et derrière, on a une chance sur deux de se qualifier au tir au but. Parce que c'est ça, hein, voilà, les tirs au but, c'est plus pareil. C'est plus, voilà, quand vous aviez 30 minutes supplémentaires sur un terrain compliqué, on arrive à une époque où il fait froid, les chocs font plus mal, c'est plus du tout pareil. On peut estimer aussi que physiquement, normalement, les professionnels doivent faire la différence peut-être pendant ces prolongations. Ça change tout, et quand vous arrivez au tir au but, votre gardien en plus qui a fait un match exceptionnel, vous dites c'est bon, il est en chaleur, il va bien m'en sortir un, voilà. Et puis en plus Boutaïb, il rate la première tentative, Là, forcément, quand vous êtes les tireurs de Chauvigny en face, vous vous dites, c'est maintenant, c'est l'occasion ou jamais, on va pas se craquer.
Ouais, c'est notre moment, effectivement. Il y a cette part d'insouciance, finalement. On est libéré quand on est un joueur amateur, qu'on atteint la séance de tir au but. C'est probablement ce qui explique cette réussite presque insolente des clubs amateurs sur ces séances de tir au but cette saison. Bon, Romain, on va pas se mentir. La Coupe de France réussit rarement ces dernières années au HAC. Comme vous l'avez souligné sur Twitter, le Havre se fait sortir par la petite porte chaque année impair depuis 2013. En tant que supporter, on imagine que vous aimeriez vibrer quand même un petit peu plus souvent, y compris en Coupe de France, parce que c'est forcément l'occasion, cette Coupe, y compris pour un club de Ligue 2, de recevoir un plus gros, un club de Ligue 1 à Océane. Bref, ça ne sera pas encore pour cette saison.
C'est clair. Bah oui, l'occasion, oui, bien sûr, d'essayer un peu aussi de remplir un peu ce stade Océane, autre que par la Ligue 2. C'est sûr qu'on aimerait bien un de ces quatre recevoir. On pense à des gros clubs, bien évidemment. Hein, on pense à l'OM, on pense au PSG, des choses comme ça. On aimerait bien recevoir ce genre de club à Océane. Ce ne sera pas encore pour cette année. On a rigolé aussi, bon, après le match, malheureusement, mais on se disait que la Coupe de France, nous, on passe même pas les qualifs, quoi. Parce que la Coupe de France, elle commence vraiment au 32e. Donc, bon, voilà, en gros, on connaît même pas la Coupe de France. La vraie, avec les amateurs, mais on aimerait bien quand même profiter aussi de l'entrée en lice des clubs de Ligue 1.
Ouais, Romain, tu faisais référence un petit peu tout à l'heure. Cette élimination, elle interpelle parce que, donc, comme on le disait, elle intervient après quelques résultats un petit peu moins bons. Depuis quasiment le déplacement à Caen, hein, mi-octobre, le club est un petit peu à l'arrêt. Est-ce que ça t'inquiète ? On a l'impression que bon, il y a encore eu un début de saison satisfaisant, comme souvent au HAC. Et là, ça cale avec l'hiver. Est-ce que ça t'inquiète pour le rôle que pourrait tenir l'équipe dans les prochaines semaines ?
Oui, c'est vrai qu'on en débat souvent. C'est le coup de mou, entre guillemets, habituel, octobre-novembre, presque décembre. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il intervenait à chaque fois après le match face à Caen. L'année dernière, c'était plutôt mi-novembre. On commençait à couler après la victoire de Caen à Océane. Et là, depuis le nul face à Caen, effectivement, c'est intervenu à peu près mi-octobre plutôt. Mais c'est vrai qu'on est... plus au ralenti qu'en début de saison. Il y a plein d'explications à ça. Hein. Je veux dire, quand votre meilleur buteur actuel s'appelle Quentin Cornet, avec 5 buts, bon, on sait qu'il a marqué 3 ou 4 superbes buts sur coup franc, mais c'est sûr que ça, on en redemande, mais c'est pas logique, en fait, à cette période-là, que ce soit Quentin Cornet en tête des meilleurs buteurs du club. Et puis, la saison passée, le meilleur buteur, il s'appelait Alexandre Bonnet, alors à égalité avec Thierry, mais c'était aussi un milieu de terrain. Donc c'est sûr qu'il y a un souci à ce niveau-là et qu'on n'arrive pas à régler depuis plusieurs saisons. Voilà, on sait très bien qu'on ne retrouvera pas un Tino Kadewere demain. On a connu aussi ça par le passé avec le départ de Haro, par exemple. On a eu un super joueur qui avait fait une superbe saison. Mais les joueurs en place, en attaque, à mon sens, se doivent de dépasser la barre des 10 buts. Je veux dire, un gars comme Thiaré ou Inouba, ils doivent être en mesure d'aller chercher la barre à minima des 10 buts, quoi. Donc, le gros souci qu'on a actuellement, c'est l'attaque. Et c'est pas que ça date pas d'il y a trois semaines, quoi.
Oui, effectivement. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, même si c'est pas un monstre d'efficacité, on a quand même l'impression que l'absence de Jamal Thiaré pèse un petit peu quand même sur le collectif havrais. C'est depuis qu'il est absent que ça tousse un petit peu plus. Là, il est pour le moment, à l'heure où on se parle, toujours incertain pour le déplacement à Grenoble vendredi. Est-ce que dans cette équipe-là, le Jamal Thiaré, il est indispensable au WAC version 2021-2022?
C'est vrai que on l'a beaucoup taquiné, embêté sur ses manques de finition, mais on se rend compte avec son absence, c'est comme ça souvent aussi qu'on peut faire des constats, on se rend compte qu'avec son absence, ça fait très mal. On se rend compte aussi que il apporte énormément devant et que c'est pas qu'une question de finition, hein, il est l'actuel meilleur passeur avec 3 passes, donc déjà rien que ça. C'est un monstre physique, il épuise les défenses et du coup effectivement ça peut créer des trous pour ses collègues à côté pour aller marquer. Donc c'est ça effectivement, ouais. De toute façon, il y a un lien de cause à effet, hein. Depuis que Thierry n'est plus là, ça va plus. Peut-être aussi dans la mise en place tactique de Paul Le Guen. C'est vrai qu'on jouait un peu plus en contre début de saison. On emmenait rapidement le ballon à l'avant avec Carré. Un peu moins sur les derniers matchs où les adversaires, nous ont laissé faire le jeu et on sait que ça nous convient pas. On ne sait pas quoi faire du ballon. Et en l'absence de Carré et s'accumuler, le coup de mou entre guillemets habituel de cette période.
Alors, je voudrais qu'on évoque un petit point, évidemment, c'est la dynamique à Brest, parce que c'est ça aussi qui peut inquiéter aujourd'hui. On demandera d'ailleurs l'avis à Romain dans un instant, mais Mathieu, l'élimination du HAC, c'est pas anodin, ça souligne la perte de vitesse de cette équipe depuis un bon petit moment déjà, 2 points sur 9, effectivement, donc sur les 3 dernières journées de Ligue 2. On a le sentiment aujourd'hui que les Havrais ont grillé tout leur joker. Est-ce que le Havre peut encore espérer se mêler au top 5 aujourd'hui, clairement, à la lutte pour la montée?
Bah, comptablement oui, parce qu'ils sont ils sont à portée de fusil du top 5, qu'ils ont montré des arguments intéressants quand on veut jouer les premiers rôles, notamment cette solidité défensive, le fait d'avoir un gardien qui fait les parades au moment où il le faut, avec Yaya Fofana. Mais c'est sûr que c'était des succès souvent avec un coup de pied arrêté, donc comme Romain l'a souligné, comme Quentin Cornet, où c'était souvent un but d'écart. Et là, il y a un petit peu perdu, un petit peu devant. Au lieu de gagner 1-0, ça fait maintenant 1-1, ou alors du coup, c'est 1-0 pour l'équipe adverse. On a l'impression que ça a tendance un petit peu à se renverser. Et là, il reste 3 journées maintenant de championnat d'ici la fin de l'année 2021. Et forcément que ces 3 journées sont importantes. Il faut que le HAC au minima reste à portée de fusil ce top 5 pour espérer jouer un rôle intéressant dans cette deuxième partie de tableau. Donc on a cité le déplacement à Grenoble de vendredi soir, et derrière il y a 2 matchs contre 2 concurrents directs au top 5. La réception de l'AC Ajaccio, qui est toujours un match particulier désormais pour le HAC depuis les événements qui sont passés il y a quelques années lors d'un match de barrage, et derrière il y a un déplacement à Auxerre. Donc forcément, sur le papier, c'est costaud. Mais bon, comme le HAC a peut-être plus tendance à réussir contre les équipes supposées les plus grosses, pourquoi pas. Est-ce que Romain, en tant que supporter, vous vous dites cette saison, oui, le HAC peut se mêler à la lutte pour le top 5 ou vous y croyez pas?
Voilà, je dirais que par rapport à ce qu'ils ont montré sur le début de saison, bien évidemment, ça nous laisse une lueur d'espoir, une porte ouverte à la lutte au top 5. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'effectivement, le wagon, faut le garder en vue pour la fin de l'année. Et on ne s'est pas facilité la tâche à faire des petits résultats face à des, entre guillemets, petites équipes, parce qu'on sait qu'en Ligue 2, c'est très homogène, mais on va dire ça comme ça. Et c'est sûr que là, par rapport au match qui arrive, on ne s'est pas facilité la tâche. Maintenant, on espère le retour de Thiaré, et puis comme on l'a dit, peut-être que ça sera mieux pour nous, ce genre d'adversaire. On sait aussi qu'on aime bien jouer entre guillemets les grosses écuries, qu'on est plus à l'aise. Donc je pense qu'on fera les comptes à la trêve et voir si on n'est pas trop décroché de ce top 5, ou si on est même encore dedans, sait-on jamais. Et là, à ce moment-là, effectivement, on sera dans une autre dynamique, et peut-être que ça changera peut-être un petit peu les perspectives du mercato hivernal, on ne sait pas.
Ouais, bah justement, je voulais te poser la question, Romain, tu fais bien de l'aborder. Est-ce que vous espérez un petit cadeau de la direction pendant le mercato, justement, avec si le club est dans le top 5 ou pas très loin, peut-être un argument offensif supplémentaire pour vraiment, ambitionner justement de jouer ce fameux top 5?
Espérer, oui. Après, quand j'évoque un peu le sujet autour de moi sur la communauté havraise, c'est partagé. On pense qu'il n'y aura pas. On pense qu'il n'y aura pas de cadeau de la part de la direction, même si le HAC finit dans le top 5 à la trêve, là. Mais c'est vrai qu'il faudrait maintenant... la défense marche bien, donc on ne voit pas pourquoi on irait changer des choses en défense. Le milieu, on a plutôt empilé des joueurs quand même, mine de rien. Et devant, on ne va pas aller rechercher un autre Ibn Oubar, on l'a déjà. Donc, c'est pas qu'on espère ou pas, c'est que si on est réaliste, il n'y aura rien pour moi.
Romain, on va profiter de votre présence dans le débrief avec Radio BFM et Foot Normand aujourd'hui pour parler un petit peu de votre communauté. Ça s'appelle ACTU, alors ACTU, H-A-C-T-U. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette communauté, Romain, en quoi elle consiste?
Oui, donc on s'est lancé en 2015. En fait, on avait envie de... la particularité, c'est qu'on est beaucoup de personnes expatriées du Havre. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas toujours aller vivre notre passion au stade, de par la distance. On y va de temps en temps, mais voilà. Et donc, on s'est réunis comme ça entre expatriés, entre guillemets, et on a lancé en 2015, donc ACTU, pour... En partage partager avant tout notre passion pour le club sur les réseaux sociaux principalement. Ensuite, on a créé un site internet où on va reprendre plusieurs informations qui tournent autour de l'actualité du club, etc. Et là, dernièrement, donc l'année dernière, on a lancé un podcast, donc on peut écouter qu'on met en ligne tous les lundis soirs à 18h, donc qui s'appelle Les Activistes, dans lequel on fait souvent le débrief du match du week-end et on va développer, on va argumenter, on va discuter autour de sujets faisant l'actualité du club. Et puis l'important pour nous aussi, c'est de beaucoup essayer d'échanger avec les gens sur les réseaux, les gens qui nous suivent, etc. Et donc voilà, c'est principalement pour partager notre passion, vivre notre passion. Et là, la nouveauté cette année, c'est qu'on veut faire de temps en temps quelques émissions live. On s'est testé là sur un avant-match qui nous a bien plu. Et donc du coup, le 21 décembre, à la suite du match après Auxerre, et pour clôturer l'année, on va faire un mode débrief en live, un grand débrief après le match directement.
Ouais, donc Romain, on va résumer tout ça. Au passage, on va aussi saluer ton collègue supporter Gilles, dont le podcast est un petit peu le bébé. On sait qu'il va nous écouter. On lui passe le bonjour. Donc on rappelle, donc chaque lundi, vous avez du coup le podcast Les Activistes à 18h, qui revient un petit peu sur l'actualité de la semaine précédente. Et donc la petite nouveauté là pour la fin de l'année, ça sera donc après Auxerre, donc le dernier match de l'année civile, qui sera un mardi, si je me trompe pas. Donc vous ferez vous enchaînerez directement sur un petit débrief du match en direct du coup sur votre podcast.
C'est ça, tout à fait, ouais. Puis il y aura moyen de discuter avec nous, de venir, il y a une fenêtre de chat et poser des questions en direct et débattre et échanger avec nous par rapport justement à ce match de face à Auxerre.
On rappelle aussi que chez Actu, bon, vous intéressez forcément à l'équipe professionnelle, mais pas que, vous suivez un petit peu toute l'actualité du club, et notamment les féminines, où vous reliez pas mal l'actualité autour de l'équipe féminine.
Oui, tout à fait. Donc on a un gars dans l'équipe qui s'est spécialisé dans les statistiques du club, qui recherche des anciens documents, etc., avec des résultats du hack. Et depuis la création de la section féminine, c'est le seul à avoir tenu à jour, dès la création de la section féminine du hack, des stats sur la section féminine du hack. Donc il a tout l'historique de la section depuis la création de cette section. Donc c'est disponible aussi sur notre site actu.fr. Vous pouvez consulter toutes les statistiques des joueuses, des entraîneurs, des résultats, des gardiennes, etc.
D'accord. Et forcément, tout ça, ça vous prend forcément un petit peu de temps, parce qu'on le rappelle, que c'est une passion du coup qui vous anime. Et c'est ça, c'est pour ça que vous le faites.
Oui, tout à fait, c'est ça. C'est vraiment par passion. Puis par plaisir aussi d'échanger avec les communautés, la communauté havraise. Et donc effectivement, le podcast, c'est ce qui nous prend quand même pas mal de temps, parce qu'on y va de manière semi-professionnelle, c'est-à-dire qu'on le prépare, on n'y va pas comme ça, on prépare l'émission, on prépare le contenu, après il y a un montage avec des musiques, etc. Donc oui, effectivement, on y passe pas mal de temps. Et puis le maintien du site internet en fonction de l'actualité du club, quelques minutes, voire heures par jour quand même.
Eh ben merci beaucoup, merci franchement Romain d'avoir partagé ce débrief de Radio VFM et Foot Normand aujourd'hui pour parler du Havre et pour parler de votre communauté Actu. Forcément, à très vite du côté du stade Océane, on l'a dit, il y a des rendez-vous importants qui se profilent pour le Havre, la 17e journée de Ligue 2, vendredi 21h, le Havre en déplacement chez le 10e Grenoble, et puis une fin d'année qui s'annonce effectivement chargée, intense et passionnante, on l'espère, pour les joueurs de Paul Le Guen. Merci Romain et à très bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
C'était la première partie du débrief Radio VFM et Foot Normand. Ne bougez pas, on a parlé du Havre, on a encore plein de choses à évoquer avec le Stade Malherbe et le foot régional.
Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.